répétition de chez Facebook. Dernière en date, le réseau social a laissé Cambridge Analytica, une entreprise d'analyse de données proche du président Donald Trump, siphonner les données de millions d'utilisateurs américains. Facebook traverse l'une des plus graves crises de sa courte histoire.
Si que démarre toute l'affaire, Cambridge Analytica, une compagnie britannique de data marketing. L'un de ses ex-employés l'accuse d'avoir volé des millions de profils Facebook, et cela au moyen d'une application de tests psychologiques diffusée par la plateforme.
Je ne capture pas que les réponses. Je capture aussi toute l'information à votre sujet sur Facebook. Mais cette application brasse aussi votre réseau d'amis et attrape tous leurs profils. Donc quand vous répondez à mon enquête, je peux capturer 300 profils, en moyenne.
Résultat, 50 millions de profils Facebook détournés. Ils ont servi à des études psychologiques permettant de déterminer des groupes d'affinités, des profils de pensée des utilisateurs. Le but, cibler les informations, mais aussi les fake news.
Si vous pouvez vous saisir de chaque canal d'information autour d'une personne et y injecter du contenu, vous pouvez changer la perception de ce qui se passe. Ce que Cambridge Analytica fait, c'est créer une toile de désinformation en ligne, ce qui entraîne les personnes à suivre une piste et à cliquer sur tel blog, tel site internet, etc. Ce qui leur fera croire que certaines choses se passent alors que ce n'est pas le cas.
Selon la presse britannique, le système aurait été utilisé pour favoriser la campagne de Nigel Farage en faveur du Brexit, ce que Cambridge Analytica nie, mais aussi celle de Donald Trump tout au long des présidentielles américaines. Il est à noter que Steve Bannon, l'âme damnée de Trump, aurait dirigé Cambridge Analytica dans le passé.
Alors, il y a eu des soupçons d'ingérence que Facebook aurait favorisé dans la présidentielle américaine, la crise des fake news, les fausses informations. Est-ce qu'on peut faire confiance encore à Facebook ou est-ce qu'on découvre que non?
Dans l'absolu, j'ai envie de dire, il faut toujours rester extrêmement vigilant parce que tout ce qui se passe du côté de la Silicon Valley, c'est en fait une transformation radicale de notre mode de vie d'interaction. J'ai envie de dire que bizarrement, Facebook, c'est aujourd'hui devenu le plus petit dominateur commun de l'humanité puisqu'on est plus de 2 milliards sur Facebook. Donc il y a presque un intérêt public au fait d'être sur Facebook pour être avec sa grand-mère, son cousin, son ami qui est parti faire un Erasmus ou un ami correspondant ou qui part en reportage au fin fond du Canada. Et dans le même temps, c'est une boîte qui a des intérêts privés, qui a un modèle économique et dès lors fait tout pour les exploiter et être rentable au maximum. Par ailleurs, il y a un deuxième aspect qui est très très important. Et avant de rentrer peut-être plus en profondeur dans la question de Cambridge Analytica, c'est le fait que les GAFAM, comme on les appelle souvent, les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont des acteurs qui ne sont pas étatiques, mais qui aujourd'hui sont extrêmement puissants, qui mettent beaucoup d'argent sur le lobbying, qui ne payent pas des impôts comme des entreprises qu'on peut recroiser en bas de chez soi. Et donc ça pose tout un tas de questions parce qu'il y a une asymétrie hyper forte entre les citoyens qui ne comprennent pas bien ce qui est en train de se jouer, ce qu'on fait de leurs données, et ces entreprises qui font de la pression pour qu'on puisse utiliser les données personnelles, pour informer un peu mais pas trop. Donc moi, en tant qu'utilisateur, je ne suis pas opposé en fait, encore une fois, à Facebook. Je ne suis pas un dangereux gauchiste qui va dire attention, ces boîtes américaines, c'est le mal absolu. Je ne dis pas ça et je pense même que c'est effectivement des sources d'empouvoirment, pour pas dire empowerment. On a vu comment pendant le printemps arabe et compagnie, on a eu beaucoup de gens qui se sont appuyés sur cette technologie pour échanger des signaux, partager des aspirations communes. Oui, mais revers de la médaille.
Mais Julien, ce qui pose problème, c'est la fausse gratuité de Facebook. C'est-à-dire qu'on pense que c'est gratuit et donc c'est de la récupération de données. C'est le modèle économique de Facebook. Est-ce qu'il est tenable, Virginie?
Je pense que le modèle, il évolue en permanence. Pour revenir à ce que vous disiez, c'est que les efforts de réglementation, il y en a eu beaucoup, et notamment en Europe. C'est-à-dire qu'on est vraiment plutôt très en avance là-dessus. On l'a vu sur l'optimisation fiscale, notamment, puisque ces grands groupes ne paient pas beaucoup d'impôts chez nous. Il y a quelque chose qu'on est en train d'essayer de développer qui est très intéressant, qui est les notions de présence numérique ou présence digitale de ces grands groupes. C'est-à-dire de savoir quel est effectivement le chiffre d'affaires qu'ils réalisent chez nous, parce que pour l'instant, on n'en a pas vraiment d'idée. Et les gens qui travaillent là-dessus, c'est notamment l'OCDE et la Commission européenne. Et on commence à définir des critères pour savoir quelle sera la meilleure façon de les les imposer. Là, on a vu que la Commission avait proposé une première grille qui était de taxer tous ceux qui faisaient... Alors attendez, ça m'échappe là pour l'instant, parce que j'ai dans l'esprit le deuxième modèle. Mais oui, c'est ça, ils veulent taxer le chiffre d'affaires, c'est ça. 3% du chiffre d'affaires réalisé, qui est en fonction du territoire. Et pour définir le territoire, ils veulent trouver... En fait, ils veulent isoler des critères, par exemple le nombre de contrats commerciaux qui ont été réalisés, ce serait 3 000. Combien d'utilisateurs? 100 000. Combien de chiffre d'affaires? 7 millions. Ça veut dire qu'on va descendre aussi beaucoup et pouvoir taxer de plus en plus d'acteurs numériques en Europe.
On va regarder la une de mars du magazine américain Wired. Mark Zuckerberg prend des coups, c'est le patron de Facebook, hein. Il prend des coups au gré des polémiques, on en parlait tout à l'heure. Le 4 janvier, il disait vouloir réparer Facebook en 2018. Mark Zuckerberg, c'est le grand naïf ou le grand méchant loup ?
Bon, moi, je crois qu'il est ni l'un ni l'autre. Je crois qu'il est ni naïf ni grand méchant loup. Je crois que tout simplement, c'est un acteur majeur d'une nouvelle économie qui, de fait, s'est construit de manière étrange dans un espèce d'accord avec les gouvernements, avec d'une manière générale les autorités, où ils ont avancé tout à fait tranquillement sans que les pouvoirs publics d'aucune sorte ne réagissent pour essayer d'instaurer des formes de contrôle, y compris des formes de contrôle fiscaux, puisque tous ces groupes, les GAFAM, ont échappé très largement à la fiscalité depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, cette affaire-là, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'en même temps, on est passé de la réalité à la fiction, ou de la fiction à la réalité, si j'ose dire. Toute l'affaire Cambridge Analytica, elle était dans la dernière saison de House of Cards. Exactement la même chose, les exploitations de données par une équipe de campagne corrompue pour réélire un président paranoïaque, chercher mon regard. Donc, si vous voulez, c'est quand même extrêmement intéressant de voir que là, on est dans une situation où on n'invente plus grand-chose, mais les choses se font. Alors, quelle est la question qui est posée maintenant ? Ben, c'est une question de responsabilité des États, évidemment. Quels sont les États ? Quelle est la volonté des États ? Et quelle est la volonté des États, je dirais, au niveau mondial, c'est-à-dire au niveau des Nations Unies, de créer ou pas un contrôle du web et une autorité mondiale du web ? Alors, évidemment, on peut se dire qu'une autorité mondiale du web, ça peut être pris comme un espèce de grand commissariat politique, et dans ces cas-là, c'est extrêmement inquiétant, mais si c'est pris comme une instance de régulation, et effectivement, si la question de la nationalité des usagers du web, et je parle bien des usagers, pas des propriétaires du web, puisqu'aujourd'hui, la question de la fiscalité, elle se pose par rapport à l'usage, pas par rapport à la propriété. Quand vous avez un grand groupe industriel comme Renault, par exemple, qui vend des voitures dans le monde entier, il est tout à fait normal qu'ils soient imposés en Malaisie, au Mexique et au Maroc et en France, bien évidemment.
Julien, une instance de régulation au niveau international ?
Oui, pourquoi pas, enfin, c'est très compliqué. En tout cas, ce qui est assez frappant, c'est que le mantra, on va dire, au départ de Facebook, c'était « move fast, break things », donc il faut avancer très vite, quitte à casser des choses. Je suis désolé, c'était vraiment le mantra.
Non, ça
voilà.
c'est le...
Donc là, j'ai le droit. Voilà, mais c'est... voilà, en fait, en gros, on se retrouve avec aujourd'hui une plateforme qui est extrêmement puissante, et donc je ne sais pas s'il faut une instance internationale. En tout cas, il faut que les dirigeants politiques gagnent en lucidité, mais les citoyens aussi. Il y a un immense travail à faire, et il faut arrêter de penser que c'est un problème de geek, c'est-à-dire c'est un problème fondamental pour toutes les démocraties. Et dès lors qu'on perd la... Quand 43% des Français s'informent via Facebook, on est en droit de savoir quel est le type de ciblage publicitaire auquel ils sont exposés. Et quand c'est à caractère politique, c'est normal qu'on le sache.
Mais je pense que moi, c'est une question de vie ou de mort, hein, entre les États et ces entreprises. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'ils sont capables de créer ou de perturber ou de pousser un candidat à une élection, même si ce n'est pas la volonté de Facebook, mais ceux qui arrivent à utiliser Facebook, ce qui est le cas de Cambridge Analytica, les fake news, donc on voit bien que c'est plus uniquement une question de fiscalité et de régulation. C'est-à-dire qu'il y a l'émergence de ces mastodontes technologiques qui seront d'ailleurs pas forcément sous le contrôle de leurs créateurs, si on voulait être encore plus pessimiste. Et puis en face, il y a des États ou des démocraties qui essaient de fonctionner à l'ancienne et qui découvrent que le système peut fonctionner de manière totalement différente à leur encontre. Donc je pense qu'il y aura forcément un moment, un backlash, un retour. La deuxième chose, c'est que la disruption... La disruption, elle peut jouer contre Facebook, elle peut jouer contre Twitter, elle peut jouer contre Uber. Des petits malins peuvent inventer un nouveau système en moins de 3, 4, 5 ans qui peut tuer ces énormes boîtes en quelques années. Donc eux aussi ne sont pas garantis de survivre. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'on fera le jour où un de ses propriétaires capitalistes va vendre son entreprise aux Chinois qui sont en train de faire des recherches intelligence artificielle, internet, digital, etc. à une vitesse. Ils n'ont pas de problème de morale, ni de contraintes, ni de monnaie, etc. Donc ils cherchent à fond. Demain, ils peuvent acheter ou prendre. Et qu'est-ce qu'on fera ? Donc il y a quand même un gestion
de... Je crois que vous vouliez réagir et ensuite je vous passe la parole. Je vous ai vu réagir à ce que disait Zia.
Vous pensez qu'on ne peut pas disrupter Facebook?
Non, oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense que c'est un acteur vraiment majeur et il y avait une expression que j'aime bien qui était oligopole de la découvrabilité. Alors, c'est très français, mais c'est compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces acteurs font que le web n'est plus exactement le web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut exister, quelque part, on passe par eux pour exister. Donc, il y a fort à parier que Facebook ferait tout pour étouffer, finalement, l'émergence d'un acteur nouveau. D'ailleurs, on voit que quand, par exemple, un Snapchat émerge, tout de suite, on essaie de le racheter. C'est ce qui s'est passé avec Instagram, c'est ce qui s'est passé avec WhatsApp.
Oui, on voit bien la volonté de neutraliser la concurrence technologique.
Exactement. Voilà. Ensuite, le cas des Chinois, juste sur le cas des Chinois, je pense que les Chinois eux-mêmes ont développé leur WeChat. Ils ont une vision spécifique de l'Internet. L'excellent bouquin de François Bougon sur la tête de Xi Jinping permettait de bien comprendre l'encadrement idéologique, quelque part, qui est mis en place et qui s'appuie sur, en plus, une recherche massive sur l'intelligence artificielle. Donc, pour le coup, je ne sais pas s'il y a un clash de civilisation au niveau du web qu'on peut observer, mais je pense qu'il y a deux modèles qui sont différents, les deux sont inquiétants, les deux posent des questions par rapport à la question de la citoyenneté et de l'autonomie des individus, mais voilà, c'est, pour moi c'est deux modèles assez différents et rivaux en fait.
Moi j'aimerais ajouter que face à ces chocs qu'on voit, il y a aussi le pouvoir des internautes aujourd'hui qu'ont donné les réseaux sociaux. Quand on voit la marche à Washington samedi, avec tous ces jeunes qui sont là pour lutter contre les armes, c'est les réseaux sociaux qui les ont réunis. Et je pense que s'il y a un backlash contre Facebook, ils peuvent l'organiser eux-mêmes.
Un euro de pénalité.
Genre en français, s'il vous plaît.
Un mot aussi pour, sur la Chine, précisément, parce que la Chine, qui évidemment a développé ses propres réseaux sociaux, ses propres outils, sa propre intelligence artificielle, elle est en même temps aujourd'hui en train d'imposer sa loi aux GAFAM, précisément à Apple, en imposant à Apple de stocker ses données, non pas aux États-Unis ou ailleurs, mais en Chine même, et donc de reprendre le contrôle des données d'Apple en Chine même. Et donc on voit bien que ces enjeux des données, de contrôle des données et tout, c'est des enjeux politiques, c'est des enjeux stratégiques, et ceux qui sont en main, c'est d'un côté la Chine et d'autre côté les GAFAM. Et nous, à la fois usagers de base, et européens, et africains, et reste du monde, on regarde, si j'ose dire, passer les trains aujourd'hui. C'est pour ça que, si je peux me permettre, je reviens sur la question du contrôle du web, parce que la question du contrôle du web, malgré tout, elle se pose depuis 25 ans, depuis 1993. À qui appartient le web? Qui est propriétaire du web? Et qui peut s'enrichir ou pas avec le web?
Je vous laisse conclure.
C'est d'ailleurs assez amusant de voir Claire Berners-Lee, qui était donc l'un des inventeurs du web, dire sur Twitter au lendemain de l'apparition de Zuckerberg sur CNN, je comprends, il s'est senti dessaisi de son bébé, il a compris qu'on pouvait quelque part avoir un mauvais usage de sa technologie. Et effectivement, en fait, aujourd'hui, il y a une puissance telle qu'il faut vraiment qu'on pose les choses clairement et qu'on encadre tout ça.
Voilà. Et puis j'ajouterais quand même un mot, parce que dans cette bataille mondiale, qui est la bataille aussi économique contre les inégalités, les géants du web, avec les fortes considérable que se sont aménagés ces dirigeants de Google, d'Apple, etc., etc., qui sont maintenant dans toutes premières fortunes mondiales, y compris Jeff Bezos.
Classement Force 2018, oui. Dans les 5 premières fortunes mondiales, il y en a 3 qui sont dans les GAFA.
Absolument. Donc je pense que, si vous voulez, le web, aujourd'hui, la structuration du web, la structuration économique du web, contribue très largement à l'accroissement des inégalités sur la planète, et que donc c'est un problème annexe, mais complémentaire, je dirais.
Et pour être complet sur ce sujet, les États-Unis et l'Europe somment Facebook de fournir des éclaircissements. Après cette affaire, plusieurs procédures ont été lancées de deux côtés de l'Atlantique.